Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, c'est une tribune parue en début de semaine dans le journal Le Monde qui a remis le sujet sur la table. 7 prix Nobel français, plus un lauréat de la fameuse médaille Fields, signe un texte au vitriol qui commence ainsi. Hasard de l'actualité, nous avons appris le même jour que les dépenses de recherche et de développement de l'État allemand ont augmenté de 75% en 10 ans, tandis que le gouvernement français annule, lui, 256 millions d'euros de crédit pour la recherche. Des mesures, dit toujours cette tribune, qui s'apparentent un suicide scientifique et industriel, conclut les 8 signataires qui mobilisent la classe politique. Et aujourd'hui, l'État français assure que les coupes n'auront aucune conséquence sur les programmes de recherche. Alors, la recherche française est-elle en danger? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités, deux chercheurs. Anne Perroche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale déléguée à la science du CNRS. Patrick Monfort, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc vous aussi du CNRS et par ailleurs secrétaire générale du Syndicat national des chercheurs scientifiques, le SNCS-FSU. Alors Anne Perroche, je voulais vous faire réagir d'abord sur ce chiffre 50 millions. C'est en cas d'application de cette coupe, ce qui serait pour vous une perte, une coupe donc de 50 millions d'euros. Alors, beaucoup de ministres ont parlé depuis quelques jours. Le dernier d'entre eux, c'est Najat Vallaud-Belkacem, qui a dit qu'il s'agissait juste de recalibrer les fonds de roulement, les trésoreries, que ça n'aurait pas de conséquences sur l'exécution du budget, ni les conditions de travail des chercheurs. Alors, est-ce que vous avez été rassurés?
Alors, d'abord, je voudrais dire que 50 millions d'euros pour le CNRS, ça représente 2% de son budget total. Et quand on enlève la masse salariale, c'est-à-dire de quoi payer les chercheurs et les techniciens et ingénieurs, eh bien, si on ramène ce chiffre de 50 millions, ça représente 12% de notre crédit de fonctionnement de subvention ministérielle. Donc, c'est évidemment important. Pour vous illustrer ça de manière un peu plus concrète, peut-être, ça représente 30% de la somme qu'on alloue aux laboratoires pour leur fonctionnement annuel. Donc si effectivement ces 50 millions d'euros venaient à nous manquer, on serait obligé de rapatrier 30% des budgets de fonctionnement des laboratoires. Donc c'est une somme très importante. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'émoi dans la communauté scientifique et au-delà. Hein, on a eu un écho très positif de l'ensemble de la population, je pense, qui s'est
ému
à
juste titre. Des deux assemblées, hein, les sénateurs
et au sein des deux assemblées,
puisque
les commissions des finances ont toutes les deux émis un avis défavorable sur l'annulation de ces crédits de recherche. Il y a eu, comme vous l'avez dit, beaucoup de réactions ministérielles. Nous, au CNRS, à la direction du CNRS, on a entendu de notre ministère qu'il y avait une solution technique, budgétaire proposée pour compenser ces annulations.
Alors attendez, ça veut dire quoi, solution technique? Est-ce qu'on vous a dit concrètement, ça veut dire quoi, un tour de passe-passe budgétaire qui permet de faire semblant de ne pas couper, mais quand même de laisser ses coupes dans les bilans financiers? C'est quoi?
Non, en fait, on sera extrêmement vigilant sur le fait que on soit autorisé à engager l'ensemble de nos programmes comme on s'y était préparé au début de l'année et que ça soit juste décalé entre guillemets dans l'année le paiement de ces autorisations. Mais je veux dire que il ne faut pas penser qu'il y a des matelas d'or dans les organismes comme le CNRS. L'argent est trop précieux pour être thésaurisé.
Alors Patrick Monfort, votre réaction à l'épisode qui se joue ces jours-ci, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes surpris?
Alors, j'allais dire les deux. Malheureusement, j'avais ressorti exprès une affiche, ça fait 20 ans, vous voyez, on est dans l'anniversaire du 21 mai 1996, la recherche en colère. Malheureusement, la recherche en colère, c'est pratiquement tous les ans. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, pour nous, ce qui est un petit peu désespérant, c'est que cette annonce de coupe, qui ne concernait pas que le CNRS, puisque le CEA, le CNRS, l'INRA et l'INRIA, donc ces quatre établissements, 134 millions d'euros de coupe sur les quatre établissements, conduisaient de toute façon, comme vient de le dire Anne, à la même problématique pour ce que celui celle du CNRS, et c'était donc une coupe sèche dans le fonctionnement des laboratoires. C'est-à-dire que on se retrouve aujourd'hui une situation où nous on l'a dénoncé ainsi, on est aujourd'hui la variable d'ajustement du budget de la nation. Il fallait faire des coupes. Une fois qu'on a eu fait les coupes dans les différents ministères pour rééquilibrer certains budgets, ben on s'est dit ben il reste l'enseignement supérieur et la recherche. Et au final, on coupe quand même initialement 256 millions d'euros, dont 134 sur les établissements de recherche.
Alors certains vont quand même vous répondre, Patrick Montfort, tout le monde fait des efforts, est-ce que la recherche ne peut pas elle aussi en faire ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, il y a quelques efforts, mais pas à ce point-là ?
Ben, le problème, c'est que les efforts, c'est fait plusieurs années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, et c'est quand même ça la question de fond aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un niveau d'investissement qui correspond à la compétition internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, la question, elle est de savoir, est-ce que la France veut un budget de la recherche qui permet d'être en compétition avec les pays qui investissent le plus aujourd'hui ? Et on sait très bien aujourd'hui qu'il y a certains pays comme la Corée, le Japon, l'Allemagne, on vient de l'annoncer, qui va arriver ce qu'on appelle à 3% de son PIB en dépense, dans l'ensemble de la dépense recherche. Il n'y a pas que l'argent public, il y a la partie privée. Donc aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, nous, on a déjà fait les calculs, puis ils sont connus. On est à 0,6% d'investissement de la part de l'argent public. Et on devrait être à 1%, qui est un engagement de tous les pays européens qui devait être atteint en 2010.
Voilà. Donc, ce qui vous fait dire que des efforts, oui, pour d'autres ministères, mais pas pour celui-là. La recherche n'a pas les moyens de faire des efforts, en gros, c'est ça ?
Elle ne les a pas actuellement, puisque justement, nous sommes actuellement en sous-financement. Et si... Enfin, je dirais que c'est un choix politique. Où on considère que la France est un grand pays de recherche, elle l'est toujours. Mais avec aujourd'hui des grandes difficultés, et donc on met les moyens, ou alors on fait un abandon sur cette question. Je dirais c'est un choix politique, mais c'est un choix du pays. Je pense que c'est pas simplement aux politiques de le décider, et il y a quand même une question qui se pose par rapport aux citoyens.
Alors Anne Perroche, sur cette notion quand même d'effort, je le disais, beaucoup disent oui, mais tous les ministères, tout le monde est amené dans le contexte actuel en France et d'ailleurs européen à faire des efforts, des restrictions budgétaires. Pourquoi la recherche ne prendrait pas sa part ? Qu'est-ce que vous répondez ? Non, nous n'avons pas les moyens ?
Alors, je pense que les chercheurs sont aussi des citoyens, donc ils sont parfaitement au courant de la situation de la France et des difficultés budgétaires. Et ce que je veux dire, c'est que les efforts sont faits par la recherche depuis une dizaine d'années, mais que là, on est à la limite de l'exercice possible, à moins d'accepter un décrochage de la recherche française par rapport à ses principaux concurrents et collaborateurs à l'échelle internationale. Comme le dit Monsieur Montfort, c'est une question de choix politique. On ne milite pas pour notre communauté, on milite parce que on sait que la recherche, c'est notre avenir commun. Ça touche l'ensemble des citoyens. Bon nombre d'inventions technologiques comme votre smartphone découlent en fait de recherches extrêmement fondamentales qui ont été faites il y a 10, il y a 15 ou 20 ans. Donc en fait, on participe complètement au développement du pays, et on pense que c'est clairement pas dans ces budgets-là qu'il faut toucher, même dans les cas extrêmement difficiles, parce que les efforts qu'on pouvait faire ont déjà été faits.
Alors, quels efforts ont été faits, par exemple ?
Ben, les budgets du CNRS, par exemple, sont quasiment constants depuis plusieurs années. Or, par exemple, la masse salariale naturellement augmente. Donc, ça veut dire qu'à budget constant en euros courants, évidemment, vous avez une baisse effective des moyens d'intervention. La recherche coûte de plus en plus cher avec les évolutions technologiques, c'est logique. Et vous voyez que nos partenaires allemands ont, eux, fait un choix radicalement différent et ont décidé de mettre des efforts importants, vous l'avez rappelé dans votre introduction, sur les budgets de la recherche.
Patrick Montfort, est-ce qu'on peut pas quand même considérer que ce rétro-pédalage du gouvernement, c'est aussi un signe qui est adressé à la recherche française ? Nous vous avons entendu. Il y a eu quand même cette tribune, elle a eu beaucoup d'écho, les parlementaires vous ont suivi, les deux commissions, je le disais tout à l'heure, Assemblée nationale et Sénat, donc commission des finances, ont voté négativement à cette coupe. Est-ce que quand même, là, le gouvernement ne vous dit pas « on entend » ?
Oui, il dit qu'il nous entend. Malheureusement, on a eu différents épisodes dans le passé du même niveau. Hein. Rappelez-vous en 2004 où il y avait une coupe sur les emplois. Il y a eu en 2009, il y avait encore des coupes sur les universités. Donc il faut à chaque fois qu'il y ait des crises majeures, comme celle qu'on vient de vivre, pour que les politiques réaffirment ce qu'ils disent toujours. Ça, c'est pas nouveau. Oui, la recherche est importante et oui, il faut qu'elle soit... certains mots ont été employés que nous n'avons jamais appréciés, comme le mot sanctuarisé, qui sont pas vraiment des mots très agréables. Mais le politique d'un côté le dit, mais il n'y agit pas. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut agir, eh bien, il va falloir aller plus loin. Et pour nous, l'enjeu maintenant, c'est le budget 2017.
Alors effectivement, Anne Perrot, je voudrais revenir sur ce que vient de nous dire ce mot qui a été prononcé, sanctuarisation, c'est quand même ce qu'avait promis le gouvernement socialiste, donc sanctuariser le budget de la recherche, ça veut dire le préserver, ne pas le baisser, alors que dans d'autres ministères, on a fait des efforts. Vous avez la sensation que cette promesse n'est pas tenue ?
Bien, c'est-à-dire que si l'annulation des crédits qui étaient prévus avait été effectivement réalisée, à ce moment-là, par exemple, pour le budget du CNRS, on constate une baisse de budget de 2%. Donc, effectivement, alors que le président de la République, il y a un an, rappelait que c'était une priorité pour la France, que la recherche était la clé de sa compétitivité et qu'il disait que s'il y avait à faire des économies, elles seraient faites ailleurs et pas dans ce domaine fondamental pour le pays.
La recherche est-elle en danger en France ? C'est le débat de ce soir sur RFI avec Anne Perroche que vous venez d'entendre, qui est directrice générale déléguée à la science du CNRS, et Patrick Montfort, secrétaire général du Syndicat national des chercheurs scientifiques. Patrick Montfort, aujourd'hui, quels sont les risques ? Qu'est-ce qui est menacé concrètement dans la recherche ? C'est le fonctionnement des labos ? C'est le recrutement des chercheurs ? C'est le paiement des salaires ?
Alors, le paiement des salaires, non, puisque nous sommes des fonctionnaires et l'État doit quand même assumer les paiements. Mettre en difficulté, de toute façon, ça serait rattrapé. Je rappellerai simplement, pour illustrer ce que vous dites, quand vous parlez des efforts faits, le CNRS, par exemple, en tant qu'établissement, a perdu en 10 ans plus de 1000 personnes. 500 chercheurs, 500 ingénieurs et techniciens. Ça, c'est une perte énorme. Quand sur un établissement qui tourne autour de 11 000 chercheurs, un peu plus de 12 000 ingénieurs et techniciens, compensé aujourd'hui bien souvent par de la précarité, parce que c'est quand même un des problèmes majeurs que nous vivons actuellement dans la recherche.
Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je suis pas sûr que ce soit très très clair pour nos auditeurs, ça veut dire quoi aujourd'hui la précarité dans la recherche ?
La précarité dans la recherche, c'est aujourd'hui des personnes que l'on paye donc sur des CDD,
par des contrats à durée déterminée.
Des contrats de durée déterminée de quelques mois, ou parfois un peu plus long. Et aujourd'hui, si on prend par exemple l'exemple du CNRS, aujourd'hui, autour de 30% des personnels sont sur ce type de contrat. Alors, c'est pas les bonnes choses, puisqu'on sait qu'on ne pérennise pas non plus les savoir-faire. Les CDD, un CDD qui part, qu'il faut reformer. Donc, on est quand même dans des niveaux de haute technicité, la recherche, de haut niveau d'ingénierie, de haut niveau de savoir. Donc, avoir autant de personnel en situation de précarité, ce n'est pas présager là aussi une sûreté par rapport à l'avenir. Maintenant, la question de savoir combien faudrait-il de personnel ou combien faudrait-il d'efforts, lui doit être calé par rapport à cet effort collectif que l'on peut faire, qu'on peut retrouver dans l'ensemble des pays. Alors, tous les pays ne sont pas au même niveau. C'est évident que certains pays sont en plus basse, ont moins d'investissement que la France. Maintenant, la question revient bien sur la problématique en France. Et si en France, on investit, on est obligé aussi d'investir dans les personnels.
Alors, est-ce que cette précarité, est-ce que c'est cet argent qui manque dans la recherche, Anne Perroche, c'est à l'origine d'une fuite des cerveaux dont on parle depuis des années en France ? Est-ce qu'effectivement, des bons chercheurs, des étudiants en France quittent la France direction les États-Unis ou l'Allemagne parce qu'ils manquent d'argent, de moyens pour faire leur travail sur le sol français ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que la recherche est pas, par essence, un secteur dans lequel il y a une circulation des cerveaux, hein, qui est complètement naturelle. Très peu des chercheurs qu'on recrute aujourd'hui au CNRS n'ont pas eu d'expérience à l'étranger. Et d'ailleurs, il y a même 30% des chercheurs qu'on recrute qui sont de nationalité étrangère. Hein. Donc,
la circulation des cerveaux. Est-ce qu'on a, par exemple, de plus en plus de difficultés à recruter des chercheurs étrangers ? Est-ce qu'il y a ce déficit d'attractivité ?
On ne voit pas pour le moment, à l'heure actuelle, de signaux tangibles dans ce sens. Ceci dit, ce que je veux dire, c'est que la recherche est mondialisée, donc quelque part, on est dans une compétition mondiale. Et donc, effectivement, l'attractivité est importante et il faut qu'on garde en France des moyens de développer une recherche ambitieuse. On a les capacités, comme l'a dit Monsieur Montfort, on a les capacités en termes de personnel, en termes de savoir-faire. Il faut qu'on soit en capacité de garder cette compétitivité et cette attractivité.
Patrick Montfort, est-ce que vous constatez autour de vos collègues cette envie d'ailleurs à cause de ce manque de moyens en France pour les chercheurs ?
Alors c'est difficile bien sûr à répondre puisqu'on va toujours nous dire qu'il faut des indicateurs pour le voir. Moi je pense qu'aujourd'hui on est quand même en difficulté parce qu'il suffit de rappeler certains chiffres. C'est quoi la rémunération d'un chercheur en France ? Un jeune chercheur recruté aujourd'hui, que ce soit à l'université ou au CNRS, le salaire c'est 1 800 euros net. 1800 euros net, nous ne sommes pas dans la compétition internationale. Et dans ce salaire, il n'y a pas à rajouter de primes. Nous sommes un secteur de fonctionnaires où il n'y a pratiquement aucune prime.
Un jeune chercheur aux États-Unis gagne combien? Est-ce que si on peut comparer?
Un jeune chercheur aux États-Unis gagne certainement plus. Je n'ai pas tous les salaires en tête. Je peux vous l'assurer qu'à chaque fois quand vous dites, quand vous annoncez à des collègues américains c'est quoi les salaires en France, et où est-ce qu'on va le voir? C'est quand vous allez chercher dans cette compétition internationale un jeune chercheur que vous avez envie de recruter dans un laboratoire. Alors d'accord, comme dit Anne, il y a toujours 30% d'étrangers que l'on recrute. Mais quand vous allez chercher quelqu'un qui est très bon, de très haut niveau, et si vous lui annoncez le salaire, ça commence à tiquer. Et là où j'ai moi une inquiétude, c'est que bien sûr, on peut toujours avoir des gens, des collègues actuellement que l'on recrute, parce que bien sûr, on recherche de l'emploi. Ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'on va recruter les meilleurs? Parce que la problématique, et puis surtout le CNRS en tant qu'établissement, a besoin d'être au plus haut niveau. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas dans l'exclusion de dire qu'il ne faudrait avoir que des gens qui soient au plus haut niveau. Nous avons besoin de gens au plus haut niveau, et nous avons un ensemble de recherches qui est constitué par les universités, le CNRS et d'autres établissements. Le CNRS, aujourd'hui, il est dans les indicateurs, fait partie des plus hauts niveaux d'établissement. La question, c'est est-ce qu'il le sera toujours dans 15 ou 20 ans? Et ça va dépendre de cette attractivité.
Anne Perroche, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à recruter les meilleurs?
Alors oui, on arrive à recruter des gens vraiment extraordinaires. En ce moment même, on a les jurys d'admission des jeunes chercheurs qui vont rentrer au CNRS au 1er octobre. Il y a vraiment des gens qui sont remarquables. Ceci étant dit, je le répète, quand on dit qu'on est arrivé au bout de l'exercice, c'est parce qu'on pense qu'effectivement, au-delà des efforts qu'on fait aujourd'hui, on perdra de la compétitivité par rapport à d'autres pays, y compris européens.
Alors, quels autres pays? On a beaucoup parlé depuis des années des États-Unis notamment, mais on parlait en début d'émission de l'Allemagne qui a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Qui sont les concurrents directs de la recherche française aujourd'hui?
Donc, les concurrents sont dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a les concurrents habituels, comme vous dites, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse aussi, qui offre des conditions matérielles pour développer une recherche qui sont vraiment attractives. Et puis, comme le disait Monsieur Montfort au début de l'émission, il y a aussi les pays qui montent et qui ont fait le choix, clairement, les pays asiatiques, certains, la Corée par exemple, qui fait le choix maintenant de développer de la recherche en propre, y compris en Chine, et qui, je pense, on va avoir des nouveaux acteurs dans la recherche mondiale, et il faut qu'on soit capable de rivaliser qui est cette émulation, encore une fois, qui est importante pour la qualité de la recherche.
Et Patrick Montfort, quels sont les secteurs de la recherche qui sont, à votre avis, aujourd'hui stratégiques? On parle beaucoup des recherches en matière d'écologie, notamment.
Bon, là on est sur mon secteur. Bien sûr, l'écologie ou l'environnement, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, la suite de la COP21, si on n'investit pas dans la recherche dans ces secteurs pour pouvoir justement répondre à ces défis importants dans lesquels on va se retrouver en difficulté pour différentes raisons du changement climatique. Mais moi, je défendrai pas plus un secteur qu'un autre, parce qu'on sait très bien que ce qu'on peut découvrir dans un secteur aura peut-être une conséquence sur un autre. Et on en revient à ce que je suis d'accord, ce que disait Anne, des découvertes aujourd'hui que l'on a en application sont parfois venues d'autres secteurs sur lesquels on n'aurait jamais pensé qu'ils apporteraient une autre science.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut donner sa chance à toutes sortes de recherches et pas celle qui est la plus efficace.
Tout à fait. Et on parle souvent des interfaces entre les disciplines, et c'est bien là, et je pense que le CNRS, bien sûr, est très fort là-dessus, puisqu'il a l'ensemble des disciplines. C'est aux interfaces, on sait bien qu'on aura les grandes découvertes et les grandes applications. Donc il n'y a pas plus un secteur qu'en d'autres. Tous les secteurs sont importants.
Anne Perroche.
Donc je voudrais dire justement que le CNRS, en développant des recherches qui vont de la physique des particules aux sciences humaines et sociales, en passant par la biologie, l'environnement et bien d'autres, est reconnu comme étant un organisme de recherche de niveau mondial. Vous connaissez Harvard, vous connaissez le MIT, mais dans le monde, on connaît le CNRS.
Et donc, je pense que c'est important de... Oui, d'ailleurs, une analyse récente de la société Thomson Reuters plaçait 3 organismes français, dont le CNRS et aussi l'ECA et l'INSERM, dans les 10 organismes publics les plus innovants du monde. Merci, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Anne Perroche, directrice générale déléguée à la science du CNRS, Patrick Montfort, chercheur lui aussi CNRS, secrétaire général du Syndicat National des Chercheurs Scientifiques. Merci également à Florence Pons, à Guillaume Caplet qui a réalisé cette émission. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI.
RFI.